Je vous remercie d'être là parmi nous. Et j'ai à cœur vraiment les personnes qui sont absentes de notre assemblée aujourd'hui. Donc, voilà, que le Seigneur les bénisse là où ils sont et qu'ils soient inspirés ainsi que nous, soyons inspirés. Soyez bénis. Vous, votre famille, les enfants, soyez bénis. Alors, on va continuer. Le meilleur est devant vous. Donc, voilà, c'est ce livre-là. Donc, c'est écrit par le pasteur Patrice Martorano, qui vient de l'église de Bordeaux, rive droite, et qui a été préfacé par Claude Houde. Ça a été l'accroche pour moi de prendre ce livre. Alors, on en est au quatrième message. Donc, on avait vu que Dieu propose à chacun de nous, à chaque étape de nos vies, des jours nouveaux, donc des nouvelles possibilités, pleines promesses. Il est un Dieu de surprise et il nous invite à ne pas abandonner, car Dieu a toujours des solutions pour nous. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans un chapitre nouveau qui est « Laissez-nous transformer ». Et il va y avoir plusieurs petits chapitres. Changer de mentalité, la métamorphose, la sainteté, le choix des hommes, le choix de Dieu. Aujourd'hui, on va s'attacher uniquement à changer de mentalité. Voilà. Changer de mentalité. Alors, sans aucun doute, pour le pasteur Martorano, son plus beau jour de sa vie est celui où il a donné son cœur à Jésus. C'est bien plus qu'une simple date inscrite sur sa Bible. Rien n'égale ce jour-là, ni son baptême d'eau, ni son mariage. Il a vécu de bons moments, mais rien n'est comparable à celui qu'il a vécu ce jour-là. Il se revoit pleurer toutes les larmes de son corps devant son péché, ses erreurs. Puis, une fois vidé de ce fardeau, pasteur Martorano se mit à danser, à tourbillonner, riant de toutes ses forces. Quel moment incroyable. Alors je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre vie, mais si vous l'avez vécu, vous savez ce que ça veut dire. Il réalisait à ce moment-là que les anges dansaient et faisaient la fête dans le ciel, car un pécheur venait de se repentir. Il était pardonné, accepté et aimé de Dieu. Lui, le voleur, le menteur, le drogué. Son âme tressaillait de joie. Alors, souvent, ce qui va nous disqualifier dans la vie, bien plus que le péché, c'est notre absence de repentance. Alors, je veux dire que c'est cette faculté de reconnaître ses erreurs, son péché, et de se réajuster sur le véritable chemin. C'est ça la repentance. La repentance ne se limite pas qu'à une expérience, c'est bien plus que cela. C'est un style de vie. C'est le désir de changer littéralement de mentalité. C'est laisser la route sur laquelle nous étions pour emprunter une nouvelle. Et cela ne se fait pas en un instant. Il faut cheminer. Alors, la langue française laisse sous-entendre que la repentance est une expérience momentanée. Une fois que ce moment est vécu, c'est fini. Absolument pas. Le salut, lui, s'obtient en un instant. Mais acquérir la mentalité du royaume de Dieu, c'est un chemin, c'est un long chemin. Le chrétien est appelé jour après jour à se libérer de ses anciens schémas mentaux pour revêtir l'état d'esprit du ciel. Jusqu'au bout, vous et je devrais laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous métamorphoser, nous transformer afin de penser comme Jésus. C'est notre objectif, penser comme Jésus. Alors j'aime ce mot « repentance ». Son sens profond indique un changement de vie, de mentalité. C'est comme si Dieu nous disait « Arrête de vivre comme un esclave, avec une mentalité obscurcie, mais saisis la lumière, la profondeur de la vraie vie. » Alors, j'aimerais tellement que les autres changent. Si je pouvais, je mettrais un coup de baguette magique sur les gens que j'aime, mon pays, mes collègues, mon patron. Alors la vie serait tellement plus agréable. Alors il y a une question. Qui doit changer ? Moi ou les autres ? Attendez-vous des autres qu'ils améliorent votre environnement ? Ça, c'est une utopie, c'est une bêtise. Le changement doit venir, vous le savez, de votre être intérieur. Vous pourriez aller jusqu'au bout de la terre, changer de travail, de patron, d'église, et voir que vous ne feriez qu'amener avec vous votre vision, et il en est de même pour moi. Alors, on va voir ça par un exemple. Pasteur Maturano aime bien les exemples, moi aussi. Et là, c'est une histoire. Ah, il était une fois un homme âgé et très sage. Ça commence bien. Chaque jour, il s'asseyait à l'extérieur d'une station-service et il attendait d'accueillir les automobilistes qui passaient par sa ville. Ce jour-là, sa petite-fille s'agenouilla au pied de la chaise et passa lentement le temps avec son grand-père, qui était âgé et très sage. Pendant qu'il regardait les gens aller et venir, arriva un homme. Étant donné qu'il connaissait tous les habitants de la ville, cet homme était assurément une personne de passage, un touriste. Celui-ci examina les alentours comme s'il cherchait un endroit où vivre. L'inconnu marcha vers eux et leur dit: dans quelle sorte de ville sommes-nous ? Le vieil homme se tourna lentement vers lui. Eh bien, de quel genre de ville venez-vous ? Le touriste dit : dans la ville d'où je viens, tout le monde critique tout le monde. Les voisins font des commérages sur les autres. Ce n'est pas plaisant d'y vivre. Non. Je suis bien content d'en partir, car ce n'est pas un endroit très joyeux. Le vieil homme regarda l'inconnu. Vous savez, cette ville-ci, c'est exactement comme cela. Environ une heure plus tard, une famille qui passait par là s'arrêta pour faire le plein d'essence. La voiture arriva où était assis le vieil homme, ainsi que la petite fille. La mère sortit précipitamment avec deux petits enfants, demandant où étaient les toilettes. L'homme lui dit : c'est là-bas. Le père sortit à son tour de la voiture et demande au vieil homme : cette ville est assez bonne pour vivre ? Celui-ci répondit : qu'en est-il de votre ville d'où vous venez ? Celui-ci répondit : eh bien, dans la ville d'où je viens, tout le monde est très proche, toujours prêt à aider son voisin. Il y a toujours un bonjour, un merci, partout où on va. Je suis vraiment triste de devoir partir. J'ai presque l'impression de quitter une famille. Le vieil homme se tourna vers le père et sourit chaleureusement. Vous savez, cela ressemble beaucoup à cette petite ville-ci. La famille remonta en voiture, remercia, leur fit un salut de la main et partirent. Lorsque la voiture fut assez loin, la petite fille regarda son grand-père en lui demandant : grand-père, comment se fait-il que lorsque le premier homme est venu de notre ville, tu lui as dit que cet endroit était dur à fréquenter et que la famille, quand la famille est venue, tu lui as dit que c'était un endroit merveilleux à vivre ? Le grand-père regarda bien tendrement les yeux de sa fille, de sa petite fille inquisiteur, le regardait. Peu importe où tu emménages, on apporte sa propre attitude avec soi. Et c'est cela qui fait que c'est terrible ou c'est merveilleux. C'est une histoire. Mais cela peut nous réveiller en nous, effectivement, qu'est-ce que nous portons en nous ? Qu'est-ce que nous avons comme bagage ? En ce qui nous concerne, pour changer notre manière de vivre, nous devons changer notre vision, notre façon de voir les choses. Le Seigneur nous invite à penser différemment. Tout commence par notre être intérieur. Quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes ? C'est important de savoir. Sur les autres et sur Dieu. Modifions notre vie sur la vie. Alors, au lieu de stagner, nous irons de l'avant. L'autre et Dieu ne seront plus des freins, mais des tremplins pour saisir notre destinée, votre destinée et ma destinée. Vous devez croire que le Seigneur est avec vous, qu'il vous donne la force d'aller de l'avant et de réussir. J'en suis sûr. Dieu nous donne la possibilité d'aller de l'avant et de réussir. Vous n'êtes pas un souffre-douleur, mais un enfant de Dieu. Plus vous vous comporterez comme une victime, et plus vous le serez. Cessez d'avoir peur, de rejeter la faute sur les autres et d'aller saisir la vie. Alors, une question me vient. Est-ce que vous ou nous prenons le risque de vivre? Est-ce qu'on prend le risque de vivre? Alors, on va voir ça dans la Bible. J'ai pris un exemple dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 8. 2 Rois, chapitre 7. Versets 3 à 8. Alors moi j'ai la version second. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons-nous nous livrer dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. À l'arrivée au camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Alors, nous voyons dans cette lecture 4 lépreux qui sont aux portes de la ville. Et à cause de leur maladie, ils n'avaient pas le droit d'habiter dans la localité. Leur situation était désespérée, car dans la cité, il y avait la famine, donc pas de nourriture pour eux. Les Syriens, en fait, assiégeaient la ville. Leur avenir s'annonçait catastrophique, aucun espoir ne brillait en eux. C'est alors que dans leur âme s'éleva un cri de refus. Pourquoi restons-nous ici à attendre la mort ? Alors je les entends dire, il n'y a plus de nourriture, si nous restons ici, ça ne sert à rien, c'est la mort assurée. Allons chez l'ennemi, peut-être que nous recevrons de la nourriture, et puis s'il nous tue, il nous tue. De toute façon, ne pas bouger, c'est mourir. Il y a ici un enseignement. Et cet enseignement, c'est osons. Prenons le risque de vivre. Prenons ce risque. Vivre avec un grand V demande une prise de risque. Certains préfèrent rester dans l'obscurantisme, dans leur ignorance, au lieu de sortir de leur caverne. Une caverne. On peut tous avoir une caverne. Là où on se cache. Là où, voilà, on y est bien et on ne veut pas bouger. Faites le choix de vivre, de découvrir. Un homme, une femme ne peut rester ici sans rien faire. Il ou elle doit se remuer afin de saisir la vie. Mais comment faire? Comment faire? C'est très simple. On commence par la repentance. La repentance, c'est quitter le mauvais chemin, celui qui nous mène à la mort pour en prendre un nouveau. Celui qui vous amènera à la vie. Et pas n'importe quelle vie, puisqu'on va suivre Jésus qui est le chemin de vie. Ai-je peur du changement? Ai-je peur de prendre des risques? La peur est une émotion et comme telle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Dans bien des cas, elle nous garde de certains dangers pour nous éviter de nous placer dans des situations difficiles. Pourtant, ce sentiment peut nous empêcher d'aller de l'avant parce qu'il nous paralyse. Alors, d'une manière générale, l'être humain est mal à l'aise face au changement. C'est pourquoi il préfère rester embourbé dans une situation inconfortable, mais qu'il connaît bien, plutôt que de vivre de nouvelles aventures. La nouveauté effraie, car on ne sait pas à quoi on va s'attendre. Beaucoup de personnes sont totalement insatisfaites de leur vie et pourtant elles ne font rien pour en sortir. Alors pour résumer, s'immobiliser, c'est le commencement de la mort. La vie, c'est le mouvement. Jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous devrons évoluer, apprendre, grandir et faire plein d'autres choses. Nous sommes invités jusqu'au bout à aller de l'avant. Il est intéressant de voir qu'un enfant a toujours soif d'apprendre. Le fameux pourquoi, dont il ne cesse jamais de nous abreuver, est une illustration qui est parlant. Puis l'enfant devient un jeune adulte, et là il sait. Il n'a plus besoin d'apprendre. En tout cas, il le croit. Cela n'est cependant pas une généralité. L'expérience nous montre qu'il y a des jeunes jeunes, des jeunes vieux, des jeunes, ou des vieux vieux aussi, ça existe, mais aussi des personnes âgées qui sont restées jeunes. Et voilà! Et c'est ça qu'il faut être. C'est des jeunes jeunes et des vieux jeunes. Voilà. Et on peut reconnaître ces gens par leur âme fraîche. Ils ont une âme fraîche. On a envie de rester avec eux. Ils ont des choses à nous apprendre et des bonnes choses. Alors pour conclure, je vais terminer avec l'apôtre Paul. Et dans son dernier épître, 2 Timothée chapitre 4, verset 13, je vais lire simplement le verset 13, mais je vous laisse le temps d'aller voir. Alors, il faut comprendre que Paul est vieux, il est dans sa vieillesse, il est emprisonné, mais il désire évoluer, toujours. Donc ça illustre ce que je viens de dire juste avant. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alors, en plus de son manteau pour se réchauffer, Paul demande des livres. Il demande des parchemins. Qu'est-ce qu'il désire ? Il désire croître, grandir dans la connaissance. L'apôtre a déjà pourtant écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il a montré qu'il en connaissait un rayon dans la doctrine. Et pourtant, il veut continuer. Et malgré cela, jusqu'au bout, il persévère dans l'apprentissage de la connaissance. Le grand Paul n'a pas peur d'affronter spirituellement et intellectuellement afin de changer et d'évoluer. Paul est un exemple pour nous. Quel que soit notre âge, il nous faut toujours être en mouvement, recherchant la face de Dieu. Alors, j'ai rajouté quelque chose parce que je voyais que Paul est dans la connaissance. Et j'ai tout de suite pensé à Osée, au chapitre 4, verset 6, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. » Alors, je l'ai rajouté parce que ça n'a rien à voir avec ce que dit le cheminement de Patrice Martorano. Mais il m'a semblé que c'était important de le dire parce que nous sommes aussi dans ce chemin. Cela nous parle aussi. Il nous faut donc chercher la face de Dieu en étudiant et en pratiquant la parole. Il nous faut changer notre mentalité dans la repentance, c'est-à-dire en reconnaissant devant Dieu nos péchés. Ayons la foi que Jésus est le seul chemin pour nous libérer de la mort. Et osons prendre le risque de vivre. Restons jeunes. Voilà. On va prier maintenant. Alors, j'ai fait une prière avec « je ». Voilà. Mais cette prière peut être la vôtre, si vous souhaitez. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon sauveur. Toi seul m'as racheté par ton sacrifice à la croix. Viens et transforme-moi, change ma mentalité qui vient du monde. Ouvre mon cœur afin de me repentir de tout ce qui fait obstacle à notre relation. J'aspire, Jésus, j'aspire à la sainteté. Aide-moi à gagner cette course que j'ai commencée avec toi. Envoie ton Esprit Saint pour susciter en nous des êtres nouveaux qui écoutent, enseignent et observent tes commandements. Permets-moi et permets à tous ceux que tu auras choisis d'acquérir la mentalité du royaume de Dieu. Merci Jésus pour le salut que tu m'as donné. Amen.